Bonjour, Marco, compte à rebours. Un nouveau compte à rebours, cette émission où il y a des histoires, des contes, des légendes. Alors, en ce moment, comme j'ai eu des cadeaux à Noël, des livres, bien, je lis quelques extraits de ces livres. Et aujourd'hui, je lirai un petit peu un extrait du livre de Françoise Héritier qui s'appelle « Le sel de la vie » aux éditions Odile Jacob. On en parlera tout à l'heure, mais pour commencer, tiens, parlons un peu de musique, et pas forcément de celle que vous entendez sur cette radio, d'ailleurs ni sur une autre, mais de celle-là. On va la mettre tout doucement et puis après on verra ce que ça donne. Ça fait du bien, hein, d'entendre ça. Les sons du monde. Ouais. Qui est le compositeur? Ah ben c'est la nature, la nature. Et qui est le technicien, l'enregistreur? Bernie Krause. Vous le connaissez peut-être, Bernie Krause. On va dire que dans les années 60, c'était un guitariste qui a beaucoup joué, surtout un guitariste de studio qui a fait les effets sonores et les films pour Rosemary Baby, Apocalypse Now, Mission Impossible, Ma sorcière bien-aimée aussi, c'était lui. Il a enregistré avec les Doors, avec George Harrison, avec Brian Eno, avec David Byrne, avec Stevie Wonder. Tout ça jusqu'à 40 ans, mais à 40 ans passés, il en a eu assez de passer son temps dans des studios à enregistrer. Il en a eu assez aussi des caprices hollywoodiens, dit-il, de ses égos détraqués, de la drogue, de l'alcool. J'ai fini par m'en lasser. Le déclic a eu sur le tournage d'Apocalypse Now. Faut dire qu'il y a de quoi. Le dernier film sur lequel j'ai travaillé et au cours duquel, dit-il, j'ai été viré et réembauché 8 fois de suite, à chaque fois pour le double de la paye. À la fin, je me suis dit stop. Je veux plus continuer comme ça. Je veux travailler dans la nature avec les animaux. Et en fait, il avait l'idée d'aller enregistrer des sons de la nature. Et à cette époque-là, le matériel venait de se miniaturiser un peu. Il y avait des magnétophones portables et des bons micros. Il est parti. Et là, ça a été pour lui une véritable révélation. Il dit qu'il a perçu les sons qu'il avait enregistrés, une fois qu'il les a eu enregistrés, non pas comme une immense cacophonie, mais comme une trame cohérente, organisée. Ça ressemblait à une partition de Boulez. Pierre Boulez, le célèbre compositeur de musique contemporaine. Et voilà, et à partir de là, il s'est plus arrêté. Il a enregistré partout dans le monde. Il avait des économies et il a fait ça. Bon, il a trouvé aussi des gens qui étaient intéressés. Il a fait des disques. D'ailleurs, un disque de son de la nature qui s'est vendu, dit-il, à 24 millions d'exemplaires. Soit bien plus, dit-il, qu'aucun de mes albums. Et oui, parce que il se trouve que ça apaise d'écouter ces sons. Il dit, Bernie Krause, un paysage sonore naturel est la voix collective d'un écosystème entier. Chaque organisme vivant, vous, moi, une crevette ou un jaguar, a sa propre signature acoustique. Et cela fait une voix collective qui comporte des niveaux multiples et raconte autant d'histoires sur la présence d'organismes vivants, les conditions météo, l'heure de la journée ou de la nuit, les caractéristiques végétales ou géographiques d'un lieu, le vent dans les arbres ou les herbes, et ou encore les déséquilibres provoqués par l'action humaine ou des causes naturelles. Bernie Krauss dit « Nous croyons que les hommes ont inventé la musique, les battements, le rythme, la mélodie. C'est ce qu'on continue d'apprendre à tous les musiciens qui passent par le conservatoire. » J'ai compris que cette définition était anthropocentrée en enregistrant une forêt au Kenya pendant 24 heures lors de ma première longue mission biophonique. Pour la première fois, écouteurs sur les oreilles, j'ai perçu les sons que j'avais enregistrés comme une trame cohérente et organisée. Alors, la musique, dit-il, consiste en des sons organisés. C'est exactement ce que donnent à entendre les paysages sonores naturels. L'origine de notre musique est à rechercher du côté des animaux qui ont façonné en profondeur le développement de l'expression sonore contrôlée et sans doute aussi le langage. Mais ces paysages, dit-il, sont aussi les tableaux de bord de la santé de notre planète. Pas besoin d'étudier un habitat pendant des années. Il suffit d'examiner quelques secondes un spectrogramme, pour ceux qui ne savent pas, c'est une fois qu'on a enregistré, on le traduit visuellement, hein, pour voir immédiatement si un milieu est en bonne santé ou non. Et malheureusement, dit-il, puisque là maintenant il commence à avoir du recul, il a commencé ça, donc c'était au siècle dernier, hein, ça fait plus de 40 ans qu'il y est, eh bien il dit plus de 50% des paysages sonores que j'ai enregistrés pendant près de 50 ans, vous voyez, moi c'était 50 ans, ont disparu, car les habitats se sont dégradés ou ont disparu. Ils sont silencieux. Et il dit que ça s'est accéléré à partir des années 90 et de la chute du mur de Berlin. Un certain type de capitalisme est mort, dit-il, celui dans lequel j'ai grandi aux États-Unis dans les années 40, un capitalisme démocratique où les syndicats étaient encore puissants, qui étaient moins inégalitaires et prenaient un peu plus en compte les ressources humaines ou naturelles. Le capitalisme financier, rajoute-t-il, a mis un coup d'accélérateur à la destruction, déforestation, extraction minière et pétrolière. Résultat, il n'y a plus des moyens de trouver des sons de biophonie qui ne soient pas déréglés. Aujourd'hui, l'anthropophonie, c'est-à-dire les sons humains, hein, la tronçonneuse, la radio, la voiture, l'avion. L'anthropophonie est audible dans 80 à 90% des biomes, c'est-à-dire des écosystèmes, un écosystème très vaste. Ça lui fait penser à cette phrase de James Watt, secrétaire à l'intérieur sur Ronald Reagan, qui dit « Le bruit, c'est le pouvoir. Plus notre pays sera bruyant, plus il sera perçu comme puissant. » Et oui, on est mal barré, mais écoutons un peu ces sons qui apaisent. On ne s'en lasse pas de ces sons. Hein. Et c'est vrai que quand on va dans les bois, quand on va se promener dans des endroits sauvages, on les entend. Mais il y a une inquiétude à entendre de moins en moins d'oiseaux, de moins en moins de bêtes. Et c'est un signe grave. Mais on en reparlera une autre fois. Pour l'instant, je vais vous parler du sel de la vie, de ce livre de Françoise Héritier. Vous devez la connaître sans doute, c'est une anthropologue. Elle a écrit des livres, disons, un peu plus comme masculin, féminin, deux sœurs et leur mère. Enfin, des livres qui étudient les rapports de genre, les rapports sociaux, enfin, qui, voilà, de l'anthropologie. Mais là, c'est autre chose. c'est voilà, elle le dit d'ailleurs. Avec beaucoup d'humilité, je déclare ce qu'il en est. C'est une fantaisie née au fil de la plume et de l'inspiration, et qui a une histoire. Un beau jour d'été, si l'on peut dire, car il faisait un temps de chien, j'ai reçu une carte postale d'Écosse. Quelqu'un que j'aime beaucoup, le professeur Jean-Charles Piette, m'envoyait quelques mots de l'île de Skye. Cela commençait par une semaine volée de vacances en Écosse. Il faut savoir que grand clinicien, professeur de médecine interne à l'hôpital de la Pitié, adoré de ses patients dont je suis depuis 30 ans, il ne vit que pour eux et pour son travail. Elle continue en disant « Je l'ai toujours connu au bord de l'épuisement physique et moral, consacrant des heures à chaque patient, capable de raccompagner le dernier du jour à son domicile s'il l'a fait trop attendre, ou d'aller même chercher un autre au 13 qu'il fit pour moi une fois. » Bref, voilà que ce terme « une semaine volée » me saute littéralement à la figure. Mais qui vole quoi ? Vole-t-il donc un peu de répit à un monde auquel il devrait tout ? Ou au contraire, ne se laisse-t-il pas déposséder de sa vie par cet entourage dévorant, ce travail obsédant, ces responsabilités multiples, accablantes ? Nous lui volons sa vie, il vole lui-même sa propre vie. J'ai alors commencé à lui répondre en ce sens. Vous escamotez chaque jour ce qui fait le sel de la vie. Et pour quel bénéfice, sinon la culpabilité de ne jamais en faire assez. Commençant à fournir quelques grandes pistes au début, je me suis vite pris au jeu et me suis interrogé sérieusement sur ce qui fait, a fait et continuera à faire, j'en suis certain, le sel de la mienne. C'est donc une énumération qui suit. Une simple liste en une seule grande phrase qui est venue ainsi, toute seule, par à coup, comme un grand monologue murmuré. Il s'agit de sensations, de perceptions, d'émotions, de petits plaisirs, de grandes joies, de profondes désillusions parfois, et même de peines, bien que mon esprit soit tourné plutôt vers les moments lumineux de l'existence. L'épaisseur du temps se fera sentir au lecteur. Je suis né avant la Seconde Guerre mondiale, qui m'a beaucoup frappé sans que j'aie eu à en souffrir grièvement, puisqu'elle m'a permis au contraire, pendant de longues vacances en Livradois, de connaître une paysannerie et un mode de vie disparu. Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d'exister, au-delà des occupations, au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements politiques et de tous ordres. Et c'est uniquement de cela que j'ai voulu rendre compte, de ce petit plus qui nous est donné à tous, le sel de la vie. Elle répond à son amie, « J'ai été ravi de recevoir hier votre carte et de savoir que vous avez pris des vacances dans ce bel endroit qui fait rêver. Vous étiez donc bien dans les brumes écossaises. » Pourtant, vous n'avez pas volé vos vacances par maraude ou par détournement. C'est plutôt votre vie que vous volez quotidiennement. Si vous tablez sur une durée de vie moyenne de 85 ans, soit 31 025 jours, avez toujours en moyenne et à la louche 8 heures de sommeil par jour, 3h30 pour les courses, 1h30 pour l'hygiène, 3h pour l'entretien domestique, les enfants, les transports, les démarches diverses, le bricolage, 140 heures de travail par mois, sur 45 ans, à raison de 6 heures par jour, ainsi de suite, eh bien, à combien que reste-t-il aux citoyens, pose-t-elle la question, et à la citoyenne lambda pour les activités qui font le sel de la vie. Oui, je vous le donne en mille. 1h30 par jour pendant la période dite active de la vie et 5h30 avant ou après. Oui. Pour quoi ? Ben les vacances, le théâtre, le cinéma, l'opéra, les concerts, les expositions, la lecture, la musique que l'on écoute ou que l'on pratique, les arts divers où l'on s'exerce, la promenade, le nez en l'air, les excursions, les voyages, le jardinage, les visites amicales, le farniente, l'écriture, la création, la rêverie, la réflexion, le sport, tous les sports, le jeu de société, le jeu tout court, les mots croisés, le repos, la conversation, l'amitié, le flirt, l'amour, et pourquoi pas des plaisirs coupables. J'ai omis bien des choses dans cette liste. Je poursuis donc en suivant la méthode des surréalistes, association d'idées et laisser venir à soi. Tout cela risque de vous paraître hédoniste, car j'ai laissé de côté tous les raffinements du plaisir intellectuel ou de celui qu'on éprouve dans des engagements. Il s'agit néanmoins de choses très sérieuses et très nécessaires pour conserver du goût. Je vous parle des frémissements intimes qu'apportent de petits plaisirs, des interrogations et même des déconvenues si on leur laisse le loisir d'exister. Je continue. J'ai oublié les fous rires, les coups de fil, un bâton rompu, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains, ou entre amis, les bières au comptoir, les coups de rouge, les petits blancs, le café au soleil, la sieste à l'ombre, manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur l'arbre, les coups de gueule pour rire, l'entretien d'une collection de pierres, de papillons, de boîtes, que sais-je, la béatitude des fraîches soirées d'automne, les couchers de soleil, être éveillé la nuit quand tout le monde dort, chercher à se remémorer les paroles de chansons d'autrefois, la recherche d'odeurs ou de saveurs, lire en paix son journal, feuilleter des albums de photos, jouer avec son chat, construire une maison de fantaisie, mettre un beau couvert, tirer négligemment sur une cigarette, tenir son journal, danser, ah, danser, sortir et faire à la fête, aller au bal du 14 juillet, écouter le concert du Nouvel An comme des millions d'autres Français, se vautrer sur un canapé, flâner dans les rues en faisant du lèche-vitrine, essayer des chaussures, faire le pitre et des imitations, aller à la découverte dans une ville inconnue, jouer au foot ou au Scrabble ou au domino, faire des jeux de mots ou des calembours, raconter des calembres naines, préparer un plat compliqué, pratiquer la pêche à la ligne ou le jogging ou la pétanque, ruminer autour d'une idée, regarder un vieux film à la télévision ou dans une salle d'arrêt d'essai, siffloter les mains dans les poches, avoir l'esprit vacant, les moments de silence et de solitude, courir sous une chaude pluie, les longues conversations dans la pénombre, les baisers dans le cou, l'odeur des croissants chauds dans la rue, les clins d'œil de complicité, le moment où tout se tait dans la nature, écouter les cris joyeux d'enfants en récréation, se repaître de glace ou de chocolat, les moments où l'on sait qu'on plaît, qu'on vous regarde et qu'on vous écoute, se sentir leste et ingambe, faire la grasse matinée, monter sur un bateau de pêche, observer un artisan, s'arrêter pour un bonimenteur, tiens, ça fait longtemps, jouir du spectacle de la rue, retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des lustres, prêter vraiment l'oreille aux autres. J'oublie tellement de choses encore. Et vous, qu'est-ce qui vous manquerait le plus si tout cela devait disparaître à jamais de votre vie ? Et voilà, l'émission est terminée, mais pourtant, dans ce livre, Le sel de la vie, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots et de paragraphes, et donc cette liste de choses qui font le sel de la vie et continue peut-être, on la continuera un peu ici, allez-vous en savoir. On verra, en tout cas pour l'heure c'est fini pour aujourd'hui. Ce livre, Françoise Héritier, Le sel de la vie, édition Odile Jacob. Oui, c'était Marco, compte à rebours. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye.